Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio Panique 105.4 FM avec l'équipe d'Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles. Ce mois-ci, nous avons préparé une émission sur les femmes et l'art, sujet passionnant que j'attendais personnellement avec impatience. Et pour cette émission, je serai exceptionnellement seule en studio, Léa ayant eu un petit contretemps, mais qui a tout fait pour nous faire parvenir ses chroniques que nous diffuserons. Donc merci meuf, tu gères. Et donc nous avons réuni aussi les participations de Lisa et Bissy. Et je suis avec Steph et Alex en régie qui vont m'accompagner au fil de cette émission avec une chouette sélection musicale. Salut les filles. Alors, commençons simple et commençons bien. Écoutons ce que Bissy a à nous dire sur le sujet aujourd'hui.
Hello à tous, moi c'est Bissy et j'aimerais vous parler aujourd'hui des femmes dans l'art et plus spécifiquement des œuvres d'art, des institutions d'art et de tout ce qui entoure cela. Alors aujourd'hui, les femmes, elles constituent toujours moins de 4% des artistes dans les collections d'art moderne. Pourquoi elles sont si peu? Pourquoi elles sont sous-représentées? Et pourquoi par contre, lorsqu'on voit des femmes dans les musées, celles-ci sont souvent l'objet de l'œuvre, l'objet du regard d'un artiste masculin? Des femmes qui sont nues, étendues, couchées, lascives, des dessins, peintures, collages et images où la femme est l'objet de désir. Le constat est dès lors, les artistes féminines et tous les artistes qui ne sont pas des hommes cisgenres forment une toute petite minorité dans les institutions d'art. Et un autre constat, celui que les femmes sont beaucoup plus souvent sur la toile, sexualisées, érotisées, captées par le regard d'un artiste, que derrière ces toiles. Et un dernier constat, c'est que les œuvres qui tentent de dépeindre les femmes dans toute leur complexité, de la façon la plus réaliste possible, et qui s'intéressent à un regard autre qu'un voyeurisme artistique ordinaire, sont beaucoup plus souvent mal accueillies. L'œuvre qui montre les cuisses entrouvertes et la vulve d'une femme, appelée l'origine du monde, choque jusqu'aujourd'hui. En 2011, par exemple, Facebook désactive des comptes utilisateurs qui posent des images de ce tableau pour non-respect des règles d'utilisation du réseau social. L'artiste Deborah de Robertis, qui en 2014 expose sa vulve, donc sa vraie vulve, en face du tableau, se fait arrêter par la police pour, entre guillemets, ce geste gynécologique qui est jugé, je cite, « exhibitionniste, trash, violent ». Cette œuvre, l'origine du monde qui est peinte par Courbet, porte le nom de l'origine du monde, même si son premier nom était le vase, une appellation un peu flattante et assez passive pour désigner la vulve d'une femme. Alors, petit topo d'histoire, cette peinture fut commandée par le collectionneur turco-égyptien Khalil Bey, qui l'exposait derrière un épais rideau vert, passée entre les mains d'un baron hongrois, elle est ensuite acquise par le psychanalyste Jacques Lacan, qui le dissimulait derrière un paysage à double lecture peint par le surréaliste André Masson. Autrement dit, ce tableau, c'est un tableau dont on a tout au long du 19e et puis du 20e siècle bien souvent parlé, sans l'avoir vu, on a fantasmé dessus sans avoir jamais vu ce tableau. Alors, des artistes qui ne sont pas des hommes cisgenres, donc des artistes femmes, des artistes non binaires, des artistes aux genres fluides, utilisent évidemment aussi l'art pour poser leur regard sur une certaine réalité. L'accueil de leurs œuvres témoigne souvent de la disparité entre ce qui est considéré comme du bon art ou de l'art de mauvais goût, de l'art qui dégoûte, qui choque, qui heurte, ou qui est juste considéré comme moins important ou légitime que les œuvres de leurs confrères. Ce dont je parle, c'est finalement comment le sexisme et tous les autres systèmes de pression qui terminent sur ismophobie, comme le racisme, la grossophobie, les LGBTQI-phobies, le validisme. En fait, que tous ces systèmes sociétaux se retrouvent non seulement dans les œuvres, mais aussi dans les relations de pouvoir entre l'artiste, le public et les institutions de l'art. Alors, un contre-exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'art qui touche par exemple au sujet des menstruations. Le sang menstruel, c'est un sujet tabou qui est rangé dans les fonds de tiroirs, caché, enfoui. Le maximum qu'on voit sur le sujet des règles dans les publicités, c'est par exemple des pubs de tampons au sang bleu et incolore. Cependant, des artistes, sans surprise des femmes et des personnes non binaires, décident de s'emparer de ce chapitre couleur rouge rouillée pour faire de l'art. John Anna, par exemple, crée de l'art avec son sexe. Elle utilise son sang menstruel pour peindre. Pour elle, cela a déjà été un moyen pour se connecter à son corps, son utérus et sa vulve, à ne plus être dégoûtée par ses règles et son sang qui ne sont au final qu'un produit naturel. Elle souhaite aussi briser ce tabou autour des règles qui empêche les personnes qui menstruent de vivre. Parce que oui, on le rappelle, toutes les femmes ne menstruent pas et toutes les personnes qui ont des règles ne sont pas forcément des femmes. Le caractère ultra choquant de cette pratique corporelle, son œuvre, témoigne justement du sexisme violent qui règne et l'artiste Jonana, elle en est bien consciente. J'aimerais aussi vous parler d'une autre personne artiste de Bruxelles qui s'appelle Aloïs, qui est pleine de talent et dans la création d'accessoires genderless, donc des accessoires qui ne sont faits ni pour hommes ni pour femmes, qui des accessoires qui ne sont pas attachés à un genre, me plaisent beaucoup. Vous pouvez retrouver les créations d'Aloïs sous le nom de Take a Bow sur Instagram. Aloïs fait aussi de la broderie, dont des tampons et serviettes menstruelles brodées avec des perles de verre rouge. Ça donne donc des tampons en bande, des tampons et des bandes qui sont des œuvres ordinaires de la vie d'une personne qui a ses règles, transformées en œuvres d'art grâce à une mise en scène raffinée. Les perles rouges rondes, jolies, quelque chose qui est considéré comme souvent à l'opposé de jolie dans notre société, et ces œuvres questionnent notre relation au corps des personnes qui ont des menstruations. Alors, plongeons un peu dans cette thématique de l'œuvre d'art et ses valeurs et ses objectifs. L'art, selon les historiens et historiennes d'art, est un outil pour représenter le monde. L'artiste se sert donc d'un support artistique comme la peinture, la sculpture, la vidéo, les installations, la performance pour matérialiser sa vision d'une certaine réalité. L'art n'a donc pas comme vocation de décrire toute la réalité. C'est un regard situé, un regard personnel, totalement subjectif, et il est très important de garder ça en tête. Pour donc analyser des œuvres d'art et comprendre les enjeux qu'ils puissent contenir, il est donc super important de se poser la question du regard de l'artiste. Quelle réalité cet artiste tente-t-elle de recréer? Sur quel sujet est-ce que l'artiste pose son regard? Et comment les différents éléments qui font que l'artiste est l'artiste qu'il est peuvent influencer, informer ce regard? Alors, un dernier commentaire sur lequel je vous laisse méditer est la question de la nudité de l'art, dans l'art. Pardon. Alors déjà, il faut distinguer la nudité du sexe. L'acte sexuel est beaucoup plus rare dans les œuvres que la simple nudité en elle-même. Et puis, étonnamment, il y a beaucoup de meufs et de mecs à poil. Alors, cependant, il y a un poil de différence dans le traitement respectif de leur nudité. Là où la femme nue, elle est érotisée, l'homme nu ne l'est presque jamais. L'homme peut très bien être dénudé, mais son sexe n'est pas le sujet de l'œuvre. Au contraire, les nombreuses sculptures grecques de je ne sais pas quel philosophe en sont des micro-pénis parce que se dépeindre avec un grand pénis ou les sculpter avec un grand pénis les aurait ôtés de leur côté sage, mature, réfléchi, héroïque, contrôlé. Donc l'homme nu et érotisé se retrouve plutôt dans des thèmes homo-érotiques. Alors voilà, cela en dit donc long sur l'état de l'art et la place des hommes, des femmes et des minorités de genre. Et je vous laisse sur les chroniques de mes chers collègues.
Merci Bissi pour ces mots sur la place des femmes dans l'art. Et il me semble que Alice, tu voulais toi aussi réagir.
Déjà une petite réaction à ce que disait Bissi. C'est vrai qu'en étant moi-même étudiante en école d'art, j'ai pu constater qu'il y avait une majorité de femmes en première année. Et on devait être 60% de femmes étudiantes. Et c'est vrai qu'il n'en restait vraiment qu'une minorité en dernière année ou qui arrivait à se lancer dans une carrière artistique. Donc les problématiques que Bissi nous a introduites étaient assez parlantes pour moi, je trouve. En tout cas, justement, à ce sujet, j'aimerais maintenant vous parler de peinture et plus spécifiquement des corps comme œuvre d'art, en revenant sur le tableau dont nous parlait Bissi, « L'origine du monde » de Courbet, qui a été repris par l'artiste Orlan en 1989. Donc sa version à elle s'appelle « L'origine de la guerre ». C'est une photo qui reprend exactement la même composition, mais avec un pénis en érection. Donc, à travers cette œuvre, elle parle de l'amputation du corps de la femme. Elle dit « L'origine du monde est ce qu'on a fait subir de pire à la femme, car il s'agit d'une femme complètement mutilée, amputée, sans tête, sans bras, sans jambes ». Ici, le pénis, donc, dans cette nouvelle œuvre, le pénis en érection est une représentation phallique, littéralement, dans le sens où c'est un symbole qui évoque le pouvoir souverain et la virilité. Et donc, elle choisit ce titre « Origine de la guerre » pour parler de cette virilité qui n'est pas seulement à l'origine de la guerre entre les sexes, les genres, mais aussi, surtout, à l'origine du violence plus générale. Orlan, c'est une artiste féministe française. Elle a 73 ans aujourd'hui. Et elle touche à plusieurs médiums. Elle fait autant de la peinture, de la photo, de la vidéo, de l'installation. Et elle est surtout connue pour la dimension performative de sa pratique artistique. Il y a beaucoup les concepts d'hybridation, de métamorphose du corps, métamorphose de soi, de l'identité, qui reviennent dans son travail. Et donc, pour la décrire, elle a les cheveux bicolores et elle a deux bosses sur les tempes. Et l'opération chirurgicale qu'elle a faite pour se les implanter était justement l'objet d'une performance artistique, puisqu'elle a été diffusée en direct dans un musée. Et le message de cette performance est une remise en question des canons de beauté et être vraiment caractéristique de son travail qui remet en question le statut social du corps féminin. Elle parle en règle générale dans beaucoup d'œuvres de la pression sociale sur les corps et en particulier comment on a fait violence au corps des femmes. Donc il y a une vraie dimension critique dans son travail, critique de l'art et de son institution, en choisissant de toucher à une variété de médiums, critique des normes culturelles, avec la notion d'artefact qui revient souvent, le fait qu'un élément artificiel puisse venir bouleverser le naturel, et une critique de soi, lorsqu'elle parle de transformation multiple, de l'identité, avec une certaine dérision lorsqu'elle utilise son corps dans ses performances. Donc elle utilise son corps qui, selon elle, est devenu un lieu de débat public, comme elle le dit, qui pose les questions cruciales de notre temps. Et d'ailleurs, Lady Gaga s'est beaucoup inspirée d'elle dans ses clips, notamment dans le clip Born This Way. Et bon, malgré quelques poursuites en justice, Orlan dit qu'elle aime finalement le fait que ce genre de message puisse impacter la pop culture. Il y a une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau ». C'est une série photographique et où Orlan est habillée en étant recouverte du drap de son trousseau. Donc le trousseau, c'est un espèce de petit trousseau qu'on donne à une femme qui va se marier, ou alors parfois c'est la femme elle-même qui se le fabrique avec des draps ou des torchons, donc pour être une bonne femme à marier. Donc elle revêt ce drap. Et sur chaque photo, elle parodie des figures féminines de l'histoire de l'art en reprenant des poses caractéristiques de femmes dans la peinture. Donc elle parle de la Madone. Y a une autre photo où elle reprend une pose de la Vierge à l'enfant. Comme ça, petit à petit, en étant de moins en moins habillée au fur et à mesure des photos, pour finir nue comme la Vénus dans l'avant-dernière photo. Et dans la dernière image, elle n'est plus là, il n'y a que le drap du trousseau qui est au sol. Dans cette série, elle met en jeu la double identité de la sainte et de la putain, comme elle le dit souvent. Elle interroge la construction sociale et religieuse du corps et transgresse les limites par la provocation et l'ironie, qui sont assez caractéristiques aussi de son travail. Donc bon, voilà, son travail est très riche, je pourrais pas le résumer en quelques phrases, mais il y a par exemple une autre performance plus conceptuelle qui s'appelle « Mesurage », où elle mesure des institutions, comme des musées ou comme des places, par exemple, à l'aide de son corps, qui devient une unité de mesure. Donc elle imite la méthodologie scientifique qui acte des vérités, en montrant aussi que son corps est une unité de mesure, mais une unité de mesure variable, en fonction de ce qu'elle porte, des coiffures ou des vêtements plus ou moins amples, qui pourront faire varier sa taille. Et donc son corps est engagé et elle insiste sur le fait que dans cette performance, c'est un objet de culture et un objet socialisé qui va mesurer et qui va donc donner une donnée scientifique. Donc ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'à la fin de sa performance, elle lave ses vêtements qui sont salis par l'institution, donc ici très concrètement, hein, puisqu'elle s'est allongée au sol ou sur l'architecture, et elle garde l'eau sale dans des flacons. Donc il y a une phrase qu'elle dit et qui résume bien cette notion de corps variable lorsqu'elle parle de son nom. Elle dit « Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Il y a plein d'autres possibles, ailleurs et autrement. Mon nom n'est pas quelque chose de figé définitivement. Je suis pour les identités nomades, mutantes, mouvantes, comme les corps. » Et ça me fait penser au cyborg art, qui est un mouvement artistique qui traite, je trouve, du fait de façonner son identité. La caractéristique de ce mouvement, c'est la création de nouvelles capacités sensorielles et de nouveaux organes, en utilisant la technologie comme une partie intégrante de notre propre corps, grâce par exemple à des implants cybernétiques. Y a Moon Riba, par exemple, qui est une cyborg artiste espagnole. Et comme beaucoup de cyborgs, elle se définit comme trans-espèce. Elle possède, elle, un capteur implanté sous son coude qui lui permet de ressentir les secousses sismiques qui ont lieu partout sur la planète grâce à un dispositif relié à un sismographe en ligne. Et donc c'est par ce biais, par le biais de cet appareil qu'elle est en contact permanent, on va dire, avec la Terre. Et à chaque tremblement de notre planète, en fonction des magnitudes, elle ressent des vibrations. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle va ou elle sait déjà implanter ce nouveau dispositif dans les pieds. En tout cas, elle combine cette technologie à la danse, en impactant directement l'état d'esprit de la personne qui danse, selon elle, c'est-à-dire elle-même. Donc son corps, là, est pleinement engagé. Et pour finir, je vais vous lire une petite citation qu'elle fait en parlant de sa pratique artistique, qui est assez engagée, selon moi. Elle dit « Pour moi, c'est le sentiment le plus naturel et le plus primitif d'être connecté à la nature. Je pense que nous devons encore apprendre à connaître notre propre planète. Toutes les autres espèces se sont adaptées à notre monde et nous ne l'avons pas fait. Nous avons toujours changé notre environnement pour nous sentir à l'aise. Il est peut-être temps maintenant de nous changer pour vivre davantage selon notre planète. Il s'agit plus de modifier notre esprit que notre corps. » Donc je vous laisse méditer sur ces réflexions inspirantes, l'occasion d'une pause musicale avec Delito de Nati Peluso.
Cuando me mira con esa maldad, no ve que a mí no me asusta. Puedo ser injusta si vos me venís a buscar. Sabes que no me somete a la tentación. Nadie más hace que yo sienta esta química tensión sexual.
Disco, yes, dame la disco, yes. Revoici ce Radio Panique 105.4 pour Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Le thème du jour, c'est les femmes et l'art. Et maintenant, on va écouter des interviews particulièrement intéressantes d'artistes féminines qui ont été interrogées par Lisa. Donc Lisa, on t'écoute.
Dans l'histoire de l'art, il n'y a certainement pas eu de manque de nudité féminine. Ce qu'on voit sur des tableaux ou des sculptures, ce sont pourtant très souvent des seins des jeunes femmes qui sont surtout blanches, qui n'ont pas de poils, etc. Mais il n'y a quasiment pas de traces de vulve ou encore du seul organe du corps humain dont la seule fonction est de générer du plaisir, le clitoris. Heureusement, avec des connaissances scientifiques autour du clitoris qui augmentent petit à petit, il devient aussi plus visible dans les œuvres d'art. Grâce aux initiatives d'artistes comme Megumi Igarashi, Betty Dodson, Yael Moon ou Sophia Wallace. Dans cet épisode, on donnera la parole à des jeunes artistes françaises qui contribuent à cette visibilité croissante du clitoris avec leurs créations. Elles s'appellent Adeline, Klaus, Valentine, Alexandra et Emily. Où se trouve le motif du clitoris dans tes créations ?
En boucle d'oreille. Donc voilà, j'ai fait les petites Janines, ça s'appelle. Et je fais aussi beaucoup d'illustrations avec le clitoris.
Le clitoris, je le représente dans toutes mes créations. Donc, certaines, on verra que le gland. D'autres, le clitoris au complet, même la partie cachée. Donc, je vais le faire sur différents supports. Donc, je vais faire des bijoux, par exemple. Je fais des bagues vulves, où là, on voit uniquement le gland du clitoris. J'ai pu travailler sur d'autres choses, comme des broderies, où j'ai représenté là... uniquement le clitoris, sur des structures qui vont pouvoir être plus grandes aussi. J'ai fait un clitomaton qui doit faire 2,50 m où il y a un trou pour mettre sa tête et où la tête représente le clitoris, quoi.
Dans mon travail, le motif du clitoris n'est pas non plus omniprésent. En fait, on peut dire que mon best-seller, c'est un petit pins en forme de clitoris avec un petit visage mignon. Donc voilà, on le retrouve essentiellement dans le pins. Et après, j'ai quelques autres produits. Notamment, j'avais une chemise avec juste la petite tête du clitoris qui dépassait de la poche. Et pour voir le clitoris entièrement, il fallait ouvrir la poche.
Pourquoi travailles-tu avec ce motif ?
J'ai découvert la forme du clitoris il y a seulement quelques années et j'ai voulu contribuer à faire connaître cet organe si peu représenté. Tout le monde sait à quoi ressemble un prépuce alors qu'il ne sert à rien, mais peu de gens connaissent la forme d'un clitoris alors qu'il est très important puisque c'est l'organe du plaisir chez la femme. Pour moi, le clitoris représente le féminisme et surtout la liberté sexuelle de la femme qui est trop souvent humiliée et laissée pour compte.
Je travaille avec le motif du clitoris parce qu'il y a 2 ans à peu près, j'étais dans une soirée de vente de sex toys avec des amis. Et l'animatrice avait un clitoris à taille réelle, imprimé en 3D. Et on a pu le tenir dans la main. Et j'ai trouvé ça joli, esthétiquement. Et j'ai trouvé ça fou qu'il faille que j'attende 30 ans pour me rendre réellement compte de ce qu'était un clitoris dans son entièreté et à quoi il pouvait ressembler. Et j'ai senti qu'il fallait que j'en crée. Je souhaite évidemment partager au plus grand nombre cette information-là, ce savoir, à quoi ressemble un clitoris réellement. Et j'aimerais que chaque personne, quel que soit son sexe, quel que soit son genre, puisse se rendre compte du petit bijou que c'est finalement, que les personnes à vulve ont entre les jambes, finalement.
Alors je dirais que je travaille avec ce motif pour 2 grandes raisons. Numéro 1 étant la raison assez symbolique, féministe. Le fait qu'il y ait quand même encore beaucoup de gens qui ignorent la forme intégrale d'un clitoris. Et je peux pas les blâmer parce qu'en fait, finalement, j'ai appris ça assez tard dans ma vie. Je pense que rares sont les gens qui ne savent pas que les femmes ont effectivement un organe qui leur donne du plaisir, qui est le clitoris, et qu'il y a une petite partie qui dépasse, voilà, qui est visible à l'œil. Mais je pense que vraiment peu de gens savent que cet organe est aussi grand et prenant, en fait, dans l'organisme féminin. Voilà, donc ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison est beaucoup plus terre à terre et esthétique finalement, c'est que la forme du clitoris m'inspirait et ouais, a vraiment une forme assez rigolote qu'on peut détourner facilement, en faire des petits personnages, des choses assez parlantes très rapidement avec ses deux grandes branches et ses deux plus petites branches. C'est une forme qui est vraiment très organique et très fun en fait à détourner.
Quelles sont les réactions des gens ?
Il y a deux catégories de gens qui réagissent à la représentation du clitoris. Il y a des gens qui ne connaissent pas la forme du clitoris et qui me demandent ce que c'est. Quand ils comprennent, ils sont souvent étonnés et gênés comme si c'était tabou. Et ensuite, il y a ceux qui connaissent la forme du clitoris et qui adorent l'idée du pins. L'avis des hommes est souvent positif car ils voudraient le porter pour afficher un peu leur côté féministe.
Du coup, quand j'ai lancé ces boucles d'oreilles, il y a eu trois réactions assez récurrentes. La première, c'était le rire. Les gens, bah ouais, ils trouvaient ça assez drôle hein, que je fasse, que je représente le clitoris, surtout en boucles d'oreilles. Hein. C'est pas commun, on va dire. La deuxième réaction la plus courante, c'était l'incompréhension, parce que bah, beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ressemble un clitoris, encore en 2021. Et la troisième réaction, c'était alors, parce qu'on peut dire la fierté, je sais pas, mais les gens trouvaient ça chouette, quoi, que je lance un peu cette initiative. Enfin, que je lance, je suis pas la seule à le faire, hein, mais ils trouvaient ça intéressant que je mette en avant le clitoris à travers des paires de boucles d'oreilles, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes sur le marché qui le font, pour l'instant.
La réaction des gens par rapport au vulvar, je pense qu'elle est super positive. En tout cas, moi, vraiment, majoritairement, j'ai eu des retours très, très positifs parce que ça permet à chacune de pouvoir s'identifier, de voir que, ah ouais, ça ressemble à ça, un clitoris. Ah, mais moi aussi, j'ai des grosses lèvres. Ou tiens, bah moi... Voilà, c'est très positif en général. Après, j'ai pu lire quand même des femmes, notamment, qui se sentaient un peu assimilées, entre guillemets, vulve sur pattes. C'est des réactions qui, une fois qu'on a pu discuter avec ces personnes-là, elles vont plus entendre le cheminement qu'on fait et pourquoi on fait ça.
Alors, il y a deux catégories, je pense, de gens. Il y a ceux qui savent très bien ce qu'est un clitoris et qui, du coup, vont reconnaître la forme et vont trouver ça très cool. Et généralement, c'est plutôt des félicitations. Et puis, il y a l'autre partie des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et du coup, qui soit vont pas relever, vont penser que c'est un petit personnage mignon, et ce que je trouve plutôt rigolo. Et l'autre, du coup, qui va commencer à se poser des questions et à demander « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette forme ? Tiens, machin. » Et ça me permet finalement d'expliquer et d'avoir une démarche un peu pédagogique à ce sujet.
Et quel est ton message au monde en tant qu'ambassadrice du clitoris ?
Utilisez-le, il n'est pas là par hasard.
Alors, je ne pense pas être une ambassadrice du clitoris, ça me semble un peu exagéré comme titre. Mais si je devais faire passer un message, ce serait clairement un message féministe, de liberté, d'égalité entre les genres, de dire que quel que soit son genre, ce qui me semble le plus important, c'est de se sentir libre dans son corps, dans sa sexualité, ou dans sa non-sexualité, parce que finalement, c'est aussi ok de ne pas être intéressé par ça, de pas vouloir prendre du plaisir de cette manière. Il y a bien d'autres façons de prendre du plaisir dans la vie. Enfin, en gros, ne pas rentrer dans des injonctions au plaisir, à la sexualité. Chacun fait comme il veut, c'est ok, sans jugement pour les autres. Donc en fait, ce sera un message vraiment bienveillant d'égalité. Et puis pour celles et ceux qui découvriraient là, aujourd'hui, ce qu'est un clitoris, eh ben, j'ai envie de vous dire juste, kiffez, faites-vous plaisir. A priori, il y a de fortes chances que vous trouviez ça cool. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous aurez au moins découvert ce que c'est.
C'est d'abord, informons-nous. Sachons ce que les personnes à vulve ont entre les jambes. Et puis, c'est aussi, observons-nous avec bienveillance, observons notre corps avec bienveillance, observons le corps de l'autre avec bienveillance et avec amour.
Accepter qui on est, ne pas se sentir différente, enlever toutes ces croyances et ces tabous sur le sexe féminin et puis Puis comme je dis, ces croyances de bah, le sexe, il n'a pas de poils, le sexe n'a pas d'odeur, le sexe a des lèvres invisibles, le clitoris, on ne sait pas quoi. Enfin, libérez-vous de tout ça, acceptez votre sexe, découvrez-le, parlez-en, et puis allez voir sur Instagram qui fourmille de personnes superbes qui font un taf de fou pour justement désacraliser, enlever ce tabou sur le sexe féminin.
Mon message, vive le clitoris.
Après ces témoignages, on va maintenant écouter une artiste bruxelloise qui a beaucoup joué sur différents thèmes artistiques, notamment son désormais célèbre cyborg Amazon. Je parle de Danse Divine et on va écouter Duxomose.
Hi!
Nous revoici sur Radio Panique 105.4 pour Elles en parlent encore, une émission de Vie féminine Bruxelles. Vous venez d'écouter Danse divine d'Uxomose. Dans cette émission sur les femmes et l'art, on va maintenant laisser la place à Léa qui va nous parler du female gaze.
Bonjour à tous. Alors moi, je vais principalement parler du female gaze et pour ce faire, je vais me baser principalement sur le livre d'Iris Bray sur le sujet appelé « Le regard féminin ». Alors, le female gaze, ça concerne principalement le cinéma, mais ça joue dans tout notre rapport à l'image et à l'art. Le female gaze, ça se ressent à travers des images qui nous appellent à désirer autrement, à explorer nos corps et à laisser nos expériences nous bouleverser. Donc ça, c'est les mots de Iris Bray. Ce terme, female gaze, se démocratise de plus en plus ces dernières années, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une nouveauté. L'expérience féminine a toujours été mise en œuvre au cinéma, mais on n'avait juste pas pris le temps de théoriser dessus et de montrer ces différences. Alors il faut savoir que le terme female gaze ne se veut pas comme étant essentialisant et que ce terme peut être compatible avec une vision du genre comme construction sociale. Et donc, le female gaze parle aussi de l'expérience queer ou du genre fluide. Ce terme a été choisi pour faire écho au terme du male gaze, mais ça ne veut pas dire que c'est un concept miroir de celui-ci, c'est juste une toute nouvelle façon d'appréhender les images. Pour penser le female gaze, il faut abandonner l'opposition féminin-masculin et voir le female gaze comme un élément qui provient de la marge et qui veut déstabiliser l'ordre établi. Pour comprendre, certains peuvent croire que le plan d'un torse nu d'un homme pourrait être une forme de female gaze. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'est du male gaze parce que c'est le male gaze qui représente les corps comme étant des objets de désir, peu importe le sexe de ce corps. Le female gaze, il veut filmer les corps non pas comme des objets de désir, mais comme des sujets de désir. Un autre exemple, si l'on mentionne le viol selon le point de vue féminin dans un film, cela n'aura rien à voir avec les violences sexuelles qui sont complètement érotisées dans la plupart des films au cinéma. Le female gaze, ça se passe dans des détails, des prises de vue différentes ou des choses comme ça. Par exemple, si on veut filmer une personne qui danse, le cadrage typique d'une personne qui danse, fait par le male gaze, ça va être mettre le corps qui danse au centre du cadre. Et le point focal va être sur le ventre qui bouge ou sur les seins, le corps qui bouge. Le female gaze va vouloir filmer le corps en entier et pas spécialement au centre du cadre, mais par exemple dans le coin du cadre pour créer une sensation de danser avec la personne et non pas de la regarder danser. C'est un vrai langage visuel qui nous fait accompagner l'expérience plutôt que nous mettre dans une position de voyeurisme. Le female gaze se trouve alors dans des images conscientisées qui sont également politisées et ce n'est pas le fruit du hasard, cela vient d'une manière de penser. Un exemple repris du livre d'Iris Bray, le film Wonder Woman, qui a été fait par une femme. L'héroïne n'est pas un objet, mais bien un sujet. La mise en scène ne se joue pas sur son corps, mais sur ses accessoires et sur son action. Par exemple, son bouclier, son lasso, ce genre de choses. Par exemple, l'arrivée de l'héroïne, au lieu d'un plan qui la balaye son corps du bas vers le haut, on va la voir émerger d'une échelle dans le plan. Et donc, on se focalise sur son action et non sur son corps. Dans ce même film, par exemple, un homme nu va arriver et l'on voit que ça ne suscite aucun désir ni aucune curiosité de la part de l'héroïne. Et donc, le désir n'est pas pensé de la même manière si on utilise le female gaze que si on utilise le male gaze. Mais attention, une metteuse en scène, ça n'assure pas le fait qu'il y ait le female gaze. Le male gaze peut aussi être appliqué par des femmes qui appliquent des codes qu'elles ont appris jusque-là. Il faut savoir que, à force de voir des films comme ça, on peut être influencé et du coup appliquer le male gaze. Et le genre d'un cinéaste ne conditionne pas sa manière de filmer les personnages féminins. Donc on ne peut pas réduire l'expression female gaze à un regard de femme. Ce serait trop essentialisant et ce serait à passer à côté de la richesse du féminin, qui ne se résume pas du tout au sexe biologique ni au genre. Le female gaze est inclusif, Donc un homme de blanc, cis, de 50 piges peut tout à fait être au centre d'une œuvre de female gaze. Enfin, une œuvre dans laquelle on retrouve du female gaze. Et alors, ce que Iris Bray expliquait aussi dans son livre, c'est que de la même manière que les prisonniers intègrent le regard qui les surveille comme une oppression, hein, les femmes intègrent celle du regard qu'elles subissent sur nos écrans et dans la réalité. Le cinéma interroge les façons dont l'inconscient structure les façons de voir, le plaisir qu'on a quand on regarde, des choses comme ça. Et le plaisir de regarder qui est propre au cinéma s'est construit sur l'objectivation de la femme. La constitution de la femme en tant qu'être pour le regard, ça s'appuie notamment sur la forme et le récit. Donc par exemple, le personnage masculin est un moteur du récit, fait avancer l'action, etc. Le personnage féminin, plutôt passif, plutôt vu comme une icône. Il faut qu'elle soit magnifique, stylisée, des gros plans qui morcellent son corps. Un système de chants, de contre-chants, qui en fait sont là pour entretenir le voyeurisme. Et ça, c'est typiquement le male gaze. Aussi, un exemple qui avait été donné dans le livre, c'est les films de Kechiche. Et donc, il y a de longues scènes où on ne voit que des culs, des corps se frotter. Voilà, c'est ambiance soirée, voilà, on danse. Et c'est fait vraiment dans le but d'exciter la personne qui regarde. Et donc, il montre les personnages féminins en commençant par montrer les jambes. Par exemple, une scène où les jambes changent de position dans une robe. Et voilà, ça c'est le premier plan qu'on voit du personnage féminin. C'est ce genre de plan, en fait, le male gaze. Et le problème, c'est que ça a une puissance tragique. À force de voir des femmes comme des culs, on s'habitue à traiter les femmes comme des objets. Et interroger le male gaze, c'est réfléchir à la manière dont un cinéaste met en scène le corps féminin et l'imaginaire lié au corps, aux femmes, etc. Filmer un cul, c'est déjà un parti pris, esthétique et politique. Et on sait que l'esthétique et la politique sont liées. Et l'engouement pour des films de ce genre, comme par exemple Mektoub My Love de Kechiche, ça montre à quel point c'est pas questionné, cette manière de filmer, en fait. Et donc, le male gaze renforce une vision patriarcale où les femmes à l'écran et dans la vie doivent être soumises au regard des hommes pour que ces derniers éprouvent du plaisir, du désir, etc. Et l'important, pourtant, enfin, dans le film male gaze, etc., c'est de donner une subjectivité au personnage féminin. C'est un sujet, ce n'est pas un objet. Et nous ne la regardons pas faire, nous faisons avec elle. Faire l'expérience du female gaze, c'est avoir l'impression de partager l'expérience du personnage et pas de le voir comme un objet. Donc le female gaze peut permettre au spectateur de ressentir l'expérience d'un personnage à la fois issu d'une minorité ou traité comme inférieur, par exemple dans le cas des femmes. Alors il est grand temps de donner priorité à ces films-là et de remettre en question nos manières de filmer et de mettre en scène les personnes pour arrêter de les objectifier. Pour terminer ces chroniques, je vais citer des noms de films qui utilisent le female gaze. C'est pas du tout une liste exclusive, hein, y en a tellement, mais là c'est ceux qui sont le plus connus, que j'ai trouvé comme ça. Alors il y a La leçon de piano de Jeanne Campion, Portrait de la jeune fille en feu qui a fait beaucoup de bruit, qui est sorti l'année dernière, de Céline Sciamma. Papicha de Mounia Medour, Les filles du docteur March de Greta Gerwig, Persepolis de Majarn Satrapi, I Love Dick de Jill Soloway et Sarah Gubbins, Wonder Woman de Patty Jenkins, Las Hijas del Fuego, Albertina Carey, American Honey d'Andrea Arnold et Baise-moi de Virginie Despentes. Donc ça, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais c'est... si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà... Ou que vous avez vu un de ces films, vous pouvez peut-être comprendre de quoi je parle. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi Léa pour ta chronique. Et pour rebondir sur cette idée de female gaze, j'aimerais vous parler de l'importance du point de vue, cette fois en photographie, en vous parlant du travail de deux femmes photographes incontournables qui abordent cette question à travers la représentation des corps et les codes esthétiques stéréotypés qu'elles tentent de déconstruire. Donc le travail de ces deux photographes a été phare autour des années 80 à peu près, et elles sont chacune devenues des pionnières dans leur style et de grandes sources d'inspiration. Donc je vais d'abord vous parler de Nan Goldin. Elle est née en 1953 et à l'âge de 11 ans, elle va être marquée par le suicide de sa grande sœur qui était vraiment un modèle pour elle, et notamment parce qu'elle était décrite comme une rebelle ou une anticonformiste. Après ça, Nan Goldin va vraiment être obsédée par le souci du souvenir. Comment se rappeler de quelqu'un? Comment représenter avec authenticité un état d'esprit ou un événement, ou du moins tel qu'elle l'aurait vécu? Et donc voilà, ce sont des idées qui vont alimenter son travail photo par la suite. Et à partir des années 70, elle aura une vingtaine d'années, et elle va commencer à prendre en photo en noir et blanc ses amis, ses colocs, aussi ses connaissances dans le milieu drag. Et elle dit qu'elle aurait aimé pouvoir mettre les drag queens en couverture de Vogue, parce que tout ce qu'elle connaissait sur la photo venait des magazines de mode. Mais cette vision de la photo de mode à ce moment-là et ce qu'elle va apprendre, elle, en école de photo, vont la déranger. Elle en parle comme des images parfaites qui n'ont aucun contenu pour elle. Et c'est comme ça que dès les années 80, elle va commencer à photographier en couleur sa propre vie dans des milieux dits alternatifs ou marginaux, des milieux drag, LGBTQIA+, ou punk, en abordant des thèmes qu'on avait peu l'habitude de voir en photo à ce moment-là, comme la dépendance aux drogues, la violence ou une liberté sexuelle. Et donc elle photographie ses propres relations pour mettre en image des manières de vivre. Et finalement, elle documente petit à petit sa génération et l'apogée des contre-cultures américaines à ce moment-là. Donc elle utilise des codes photographiques qui rappellent ceux d'un album de photos de famille, notamment avec une série sur un couple d'amis dont l'un de ces deux hommes est atteint du sida. Et donc elle photographie leurs instants de leur vie quotidienne en fait, leurs moments de tendresse, leurs moments de douleur. Et donc lorsqu'on regarde son travail photo, c'est vraiment comme un journal intime photo. Enfin, on a l'impression de voir des images imparfaites, des images floues, prises sur le vif, dans des moments vraiment ordinaires ou avec des flashs de lumière assez crus. Enfin, on a presque l'impression que c'est pas vraiment maîtrisé et qu'il s'agirait de photos que chacun et chacune d'entre nous aurait pu prendre, mais quand même dans une intimité la plus extrême, puisque les sujets sont pas vraiment ceux qu'on a l'habitude de voir dans un album de photos de famille, standard du moins. Par exemple, il y a beaucoup de scènes de sexualité ou de personnes nues simplement dans leur vie quotidienne, mais qui s'éloignent des codes esthétiques de représentation de la nudité, enfin en tout cas à cette époque. Elle, quand elle parle de son travail, elle parle d'un désir de changer le regard qu'on peut poser sur ces contre-cultures, ou du moins la manière de les représenter. Et c'est pourquoi cette spontanéité dans le point de vue qu'elle choisit, c'est sa manière de s'inclure dans ce qu'elle représente, et de ne pas justement faire une sorte de documentaire où le spectateur ou la spectatrice aurait un certain recul sur ce qu'il ou elle regarde, mais au contraire, lorsqu'on regarde ces photos, on a l'impression d'en faire partie, on est vraiment impliqué, on est plongé nous aussi dans ce qu'elle nous montre. Et dans sa série la plus connue, qui s'appelle « Ballade de la dépendance sexuelle », elle aborde le sujet de la violence qui accompagne les catégories de genre. Elle s'interroge sur la façon dont on fabrique ces catégories dès l'enfance, et si ce sont justement ces constructions qui rendent la violence possible par la suite. Des exemples de représentations un peu archétypales qu'on peut y retrouver, on voit des enfants avec des déguisements, donc des princesses et des cow-boys, ou par exemple une photo d'une femme en tenue de mariée, ou des hommes avec des armes et des voitures. Et finalement, après ces différentes images stéréotypées, arrive la photographie peut-être la plus connue de Nan Goldin. C'est un autoportrait. Elle fixe l'objectif de l'appareil photo, on la voit apprêtée, donc elle porte des bijoux, elle a du rouge à lèvres, elle est très bien coiffée, et elle a deux cocards. Et donc dans cette photo, elle incarne toute l'ambiguïté de sa propre relation toxique hétérosexuelle qu'elle choisit de rendre visible dans cette photo. Et elle dit elle-même « Je voulais que ce soit à propos de chaque relation et du potentiel de violence de chaque relation ». Puis au fil de cette série photo, elle amène des alternatives de représentation de genre, d'autres options de genre, comme elle le dit, où la complexité des représentations et la déconstruction des genres passent aussi visuellement, en jouant avec des éléments comme du maquillage ou des tenues vestimentaires qui reviennent dans ses, dans ses photos, hein, dans l'ensemble de son travail, et qui nous parlent de cette notion d'image, d'image sociale. En gros, comment s'extraire de ces constructions sociales et comment parler de cette déconstruction en photographie ? Et c'est cette idée d'utilisation de codes de représentation qui m'amène maintenant à vous présenter en quelques mots le travail de Cindy Sherman, qui pourrait être plus, elle, qualifiée d'artiste conceptuelle. Son travail, à elle, est constitué de multiples séries photos dans lesquelles elle se met en scène. Mais malgré tout, on ne peut pas qualifier ses photos d'autoportraits selon elle, puisqu'elle utilise des artifices, des costumes, elle construit des décors. Et donc pour elle, il s'agit bel et bien d'images construites, où elle incarne des personnalités plutôt que des portraits d'elle-même. Et donc, quand elle parle de sa démarche, elle dit être dégoûtée par la façon dont les gens se font beau et qu'elle a toujours eu une plus forte attirance pour le grotesque. Elle s'intéresse à la manière dont nous représentons et modelons nos corps et dans ce sens, elle dit, à la manière dont nous produisons des raccourcis visuels pour classer le monde de manière superficielle et stéréotypée. Donc dans ces photos, en fait, les costumes qu'elle porte la propulsent dans la peau d'autres personnes, dans des contextes et scénarios qu'elle construit de toutes pièces. Mais les décors choisis ne nous semblent pas inconnus. Enfin, ils font écho à des choses qu'on aurait déjà vues au cinéma, souvent, enfin, par exemple. Et ses perruques et ses vêtements sont souvent grotesques. Le maquillage est visible, enfin, un peu mal fait. On se demande un peu ce qu'elle nous montre. Et ça donne un caractère un peu pathétique à la photo. Enfin, on comprend qu'elle nous parle beaucoup plus de la performance de faire image de soi plutôt que d'elle dans ses portraits. Et donc elle dit qu'il s'agit pour elle d'une réaction critique face au paysage médiatique qui l'entoure, en s'appropriant au fil du temps les représentations dans la peinture, dans la pub, dans les images télé ou encore dans les magazines. Donc en fait, elle interroge aussi dans une série notamment les représentations dans le porno, c'est une série où elle met en scène des poupées désarticulées. Il y a aussi une série où elle pousse à l'extrême l'idée de construction d'image de soi, dont je parle depuis tout à l'heure, où elle incarne une série de portraits de clowns. Et à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, elle pose beaucoup de portraits d'elle aussi assez inquiétants, enfin, parfois pathétiques ou drôles, où son visage est déformé, en référence au filtre Instagram, par exemple. Donc pour résumer, se mettre en scène de cette manière, c'est une façon pour elle de se réapproprier des apparences genrées et sociales en les rendant presque ridicules et d'interroger les attentes que la société et ses conventions pourraient avoir d'elle en tant que femme. Voilà, sur ces paroles, vous pourrez retrouver cette émission qui touche maintenant à sa fin, ainsi que les précédentes émissions sur le site de Radio Panique et notre SoundCloud, Elles en parlent encore. Merci les filles pour votre participation à distance. Merci Steph et merci Alex pour la régie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.